Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration des questions sanitaires en milieu carcéral sur le continent. Pour cela, nous recevons une représentante du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, Carole Dromer. Carole, bonjour.
Bonjour.
Tu es la coordinatrice des programmes de santé en détention du CICR. Est-ce que tu pourrais nous préciser quelle est la nature de l'action du CICR en prison ?
La nature de l'action du CICR, en prison ou ailleurs d'ailleurs, est humanitaire. Je dirais même, je vais ajouter, humanitaire durable quand cela est possible et pertinent. Nous travaillons sur les conflits armés et les autres situations de violence et nous avons des grands principes d'action qui sont suivis déjà depuis des années et des années depuis que le CICR existe, à savoir la neutralité, l'indépendance, l'impartialité. Neutralité, ça veut dire que le CICR ne prend pas parti pour les uns ou pour les autres. Indépendance, c'est-à-dire que le CICR décide de ses actions. Et impartialité, ça veut dire que le CICR ne fait pas de discrimination entre des populations ou des individus. De plus en plus sont ajoutées de nouvelles notions à ces modes d'action, qui sont le partenariat, la prise en compte de la volonté des personnes vers qui et avec qui se fait l'action, mais aussi la redevabilité envers ces personnes. Et à la fin, la valeur première reste la dignité de tout homme et de femme.
Du point de vue de la santé, ça se traduit comment, ces principes ?
Alors, du point de vue de la santé, justement, c'est là où on pense humanitaire durable en prison, d'emblée. C'est-à-dire que, dès l'urgence, on va penser durabilité de l'action, et au sein d'une action durable, on va penser à « et quoi s'il y a une urgence ?». Et donc, notre objectif devient, en détention, améliorer durablement la condition de vie des détenus. Et pour ça, le CICR a la chance non seulement de travailler avec les autorités, mais aussi d'avoir des équipes multidisciplinaires, ce qui nous permet de travailler sur les déterminants de la santé et pas que sur l'accès aux soins. Donc on va travailler sur l'eau, sur l'habitat, sur l'alimentation, sur l'éducation, sur les liens familiaux, sur les activités récréatives, sur les garanties judiciaires. Tout ça est important parce que tout élément de la santé, tout élément de la détention, en fait, a un impact sur la santé des personnes, voire même des sociétés, puisque les personnes seront un jour ou l'autre relâchées dans leur société.
Mmh. Mais vous n'intervenez que dans des situations de crise ou des situations de post-conflit, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Sur l'ensemble du continent, ça représente combien de pays, vos interventions ?
Donc en matière de soins de santé en détention, c'est 20 pays, c'est un peu plus si on parle du CICR en général sur le pays, mais santé en détention, c'est 20 pays. Mmh. Et ça fait à peu près 200 000 détenus couverts et 250 lieux de détention.
Et quelle est la durée moyenne de vos interventions ?
Alors il n'y a pas vraiment de durée moyenne, mais le CICR de toute façon s'inscrit dans la durée. On reste des années et des années, il y a quelques exceptions, hein, mais on reste des années. Comme les conflits armés et les situations de violence elles-mêmes durent, eh ben, l'action du CICR dure aussi, en fait.
Vous intervenez dans le monde entier. Est-ce que votre intervention sur le continent africain présente des spécificités ? Est-ce qu'il y a un problème spécifique au continent sur les questions de santé ?
Alors, il y a des spécificités et puis des similitudes, mais qui prennent une dimension tout autre. Une des spécificités, on va dire, majeures, c'est la présence de malnutrition. Ce n'est pas vrai sur tous les pays sur lesquels nous intervenons. On intervient sur 20 pays pour la santé en détention, mais dans 16, on travaille sur la malnutrition, c'est-à-dire on prévient la malnutrition ou on traite la malnutrition. Et l'an dernier, par exemple, on a traité un peu plus de 35 000 personnes qui étaient atteintes de malnutrition. Donc c'est un problème majeur.
Est-ce que ça concerne l'ensemble du continent également, où il y a des disparités à la fois entre grandes régions du continent et des disparités peut-être entre régions d'un même pays ?
Il y a surtout des disparités d'un pays à l'autre, c'est-à-dire que le nord de l'Afrique est assez peu touché par ça. Puisqu'une des premières des causes de la malnutrition en détention, c'est une ration alimentaire qui n'est pas suffisante en quantité et qualité. C'est une des premières raisons. Donc dans le nord de l'Afrique, on n'a pas ces problèmes-là.
Alors tu nous as proposé une photo d'une cuisine, d'une prison rurale en Afrique. Avec cette photo, on perçoit bien que les problèmes ne sont pas simplement de fournir de la nourriture, mais d'être capable de la cuisiner. Dans quel type de prison on observe ces situations ?
Alors ce type de situation qui est une situation qui peut paraître extrême mais qui est assez habituelle, on va dire, notamment dans les prisons rurales en Afrique. Et il est bien évident que cette personne-là qui doit cuisiner pour 1000 personnes, elle ne risque pas d'y arriver. Avec une capacité comme ça en cuisine, même s'il y a des aliments dans la prison, ce sera impossible de nourrir des détenus, autant de détenus. Donc il y a une disparité dans un même pays. Les prisons, en général, qui hébergent le plus de détenus et qui sont en capitale, sont un peu mieux loties, on va dire, que les prisons des zones reculées.
Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un autre exemple d'un point commun des prisons africaines ?
Alors, il y a un autre point commun qui, on va dire, et celui-là est un peu plus positif, c'est le peu de recours à l'isolement cellulaire. Alors, ce n'est pas vrai dans le nord de l'Afrique, mais c'est vrai dans l'autre partie de l'Afrique. Et je dirais que c'est positif parce que l'isolement cellulaire est quelque chose de très délétère pour la santé des personnes, très délétère à la fin pour leur famille, pour leur société, parce que ça entraîne des dégâts importants sur la santé.
Un dernier point commun aussi, je crois, c'est le traitement des problèmes de santé mentale.
Oui, alors ça, c'est une similitude qu'on trouve partout dans tous les pays du monde. Mais sur l'Afrique, encore là, ça prend des proportions importantes. Parce qu'en fait, même la population libre a très peu d'accès aux soins de santé mentale, et les populations détenues encore moins. Et ce qui se passe dans certains pays, c'est que comme la société n'arrive pas à prendre en compte ce problème ou ne sait pas quoi faire de ces personnes souffrant de désordres mentaux graves, ben en fait, ils les incarcèrent. Et donc, en fait, ces gens se retrouvent incarcérés, enfermés, sans traitement.
En fait, on est face aussi à un problème de manque de moyens.
Oui, c'est une autre similitude, mais qui prend des proportions énormes, c'est effectivement le manque de moyens. Beaucoup d'États en Afrique n'ont pas les moyens d'assurer même le minimum vital pour les personnes détenues. C'est-à-dire, je ne parle même pas de l'accès aux soins, là, je parle de l'eau potable en quantité suffisante, d'une alimentation équilibrée et saine, un habitat salubre. Même ça pose problème.
Un enjeu politique qui a à voir aussi avec la question de la légitimité des détenus auprès des populations générales.
Ah bah oui, parce que les États ne sont quand même le reflet en grande partie que de leur propre société. Donc si leur société perçoivent les détenus comme des gens qu'on peut laisser tomber ou négliger, ben les États, ils vont faire ça.
Merci Carole.
Merci à toi.